J'aime bien la radio. Il suffit d'allumer. On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard. Vite, Anna, un chiffre.
Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure de cartographier la musique de films français. Je suis Coco et je serai votre humble guide pour ce plongeon dans les mélodies, avec toujours cette même question composée: comment s'écrit et se conscientise la musique de film? Comment imprègne-t-elle un plan de cinéma? Comment s'incarne-t-elle aujourd'hui et quel serait finalement le style musical d'un compositeur? Nous répondrons à ces questions à travers un cheminement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant, pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Afin d'étendre au mieux le spectre, l'émission alternera tous les mois entre une émission portrait, où je portraitiserai un compositeur ou compositrice de cinéma, et des émissions plus actuelles, où je reviendrai sur les nouveautés musicales des deux derniers mois. En somme, je vous invite à découvrir avec moi ce qui fut ma première porte d'entrée de ma cinéphilie, la musique de film.
Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois à 21h, sur Radio Campus Paris.
Aujourd'hui, Julie Rouet. Une émission enregistrée le 17 septembre à Radio Campus Paris avec l'aide de Simon Marie à la réalisation. Bienvenue dans Avant que la mélodie ne s'empare de tout, et aujourd'hui ma première invitée pour cette nouvelle année de cinéma sur Radio Campus Paris. J'accueille avec moi Julie Rouet.
Bonjour.
Alors Julie Rouet, pour te présenter un petit peu, nos auditoristes sur Radio Campus Paris sont assez habitués d'entendre tes mélodies, puisque tu es aussi la compositrice de La fille de son père, Perdri, film de Erwan Leduc, et puis aussi de séries, alors Le monde n'existe pas, qui va sortir fin septembre, Zorro dernièrement, pour Paramount+, et d'autres séries un peu plus connues aussi comme Parlement et Sous contrôle. Ton premier film était Jeune femme, je crois, si je m'abuse.
Oui, c'est ça, Serail.
Est-ce que, peut-être comme première question, est-ce que tu peux te présenter vis-à-vis de ton parcours, du coup, et comment t'en es arrivée à la composition?
Ouais, bah moi j'ai un parcours qui a pris pas mal de temps en fait. C'est que j'ai commencé par faire du son. J'ai fait l'école Louis Lumière, donc j'ai appris le métier d'ingénieur du son, et plus particulièrement j'ai fait du montage son en sortant de l'école. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans en fait. J'étais même, j'ai même pas honte de le dire, j'étais assistante sur les tuches 2, sur les tuches 3. Voilà, donc ça, j'ai appris plein de trucs. Et c'est ça, et c'est un métier que j'ai adoré, franchement. On rencontre des gens vraiment super. Mais en parallèle de ça, je commençais à faire de la musique. Et en fait, je me suis formée à la composition vraiment sur le tard. C'est-à-dire que j'avais... Alors en fait, si on remonte le film, avant d'être ingé son, j'étais musicienne. Et comme beaucoup d'ingé son, je suis une musicienne ratée, quoi. En fait, on devient ingé son, pardon, hein, pour Simon qui est avec nous. Mais souvent... Les ingé-sons sont des gens qui auraient voulu être musiciens et puis qui n'ont pas sauté le pas pour une raison ou pour une autre. Et donc, moi, j'avais un peu ce truc-là, mais que je ne m'étais jamais avouée. Et en fait, après avoir étudié à Louis Lumière, j'ai pris des cours d'écriture d'harmonie, donc d'orchestration dans un conservatoire à Paris. Et j'ai appris comme ça les rudiments d'écriture qui me servent aujourd'hui et qui m'ont permis aussi de prendre un peu confiance en moi dans cette question de l'écriture. Parce que c'est intimidant en fait de faire de la musique de film. On a cette histoire de la musique de film derrière nous et on se dit waouh, c'est une montagne impossible à gravir.
Surtout avec un patrimoine français quand même assez costaud, j'ai l'impression.
Enfin, ouais, c'est ça. Puis un niveau d'écriture, de conservatoire. Enfin, moi, je me faisais vraiment une idée que pour faire ce métier-là, il fallait avoir tout un tas de diplômes avant que je me rende compte que finalement, avoir un profil d'ingé son, c'était aussi hyper intéressant. Mmh. Et quelque part, ça rassurait aussi beaucoup. Les cinéastes.
T'as une filmographie qui, quand même, je trouve assez très hétéroclite, où ça passe du coup par les courts-métrages, les films, les séries, et puis en fouillant un peu des documentaires, des projets VR ou même des ciné-concerts. Comment tu abordes tous ces différents médiums en général ? Enfin, alors peut-être poser plus la question sur la série et sur les films. Comment se travaille des compositions en général ? Est-ce que c'est vraiment spécifique à chaque œuvre cinématographique ou sérielle, ou est-ce qu'il y a quand même un truc récurrent ?
Alors là-dessus, moi j'ai l'impression de partir d'une page blanche à chaque projet, quel qu'il soit. Et en fait, je fais des films ou des séries suivant ce que les cinéastes vont avoir envie de faire. Mmh. Et c'est les mêmes cinéastes que je suis en film ou en série. Oui. Donc là-dessus, c'est plutôt le cinéaste ou la cinéaste qui va déterminer quelle va être la nature de la musique que je vais faire. Et là-dessus, c'est ça que je trouve vachement excitant dans ce métier. C'est que, au départ, je ne sais pas si je vais faire de la musique électronique, si je vais faire de la musique instrumentale, si on va faire de la musique tonale ou pas du tout. Et tout ça, ça se dessine petit à petit. J'ai aucun a priori.
Tu es dans cette nouvelle génération, j'ai l'impression, de compositeurs, compositrices qui sont dans la musique, enfin qui font un alliage quand même très assumé entre musique électronique et musique acoustique. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Parce que j'ai l'impression que ça vient aussi avec ton parcours en tant que chanteuse et dans ton groupe de musique.
Ouais, tout à fait. Ou alors moi, je dirais peut-être les choses un peu différemment. C'est que devenir des métiers du son, ça fait que j'aborde la musique vraiment à partir de la texture. Et en fait, je dis ça et je me rends compte que j'aime aussi vachement les mélodies, qui est un truc un peu old school dans la musique de film. Donc c'est assez paradoxal. Mais je pars d'un constat qui est quand même, certains le trouveront peut-être triste, moi pas du tout, c'est que dans la musique de film, on ne peut pas écrire une musique hyper complexe, harmoniquement. Je parle là vraiment de l'écriture musicale, que les quelques fois où j'ai voulu faire des choses un peu compliquées, où la musique était narrativement hyper présente, avec y compris des accidents dans l'harmonie, des accidents dans la mélodie, des trucs qui frottent un peu, ces musiques-là, souvent, elles se font jeter. Et en fait, les musiques qui marchent le mieux, c'est les musiques qui sont presque les plus pauvres harmoniquement. Alors, je vais me faire assassiner de dire ça, mais tant pis, je le pense quand même dans une espèce de généralité. Et donc, comment on fait des musiques intéressantes si elles sont pauvres harmoniquement ? Je pense que la recherche, elle est vraiment dans la texture, dans comment on va rendre trois accords qui tournent en boucle intéressants, voire fascinants. Et c'est là que qu'on sait bien de connaître un peu les outils pour travailler les textures.
Thank you.
C'est intéressant parce que moi je trouvais que dans certains de tes films, enfin, films et du coup passages de série, il y avait quand même une pensée de la musique comme moteur d'action. Enfin, moi, je pensais à un film, bah, du coup, un de mes films préférés de l'an dernier qui était La fille de son père, avec cette fameuse ouverture où c'est littéralement un passage muet pendant 7 minutes. Et, comment, par exemple, pour ce passage-là, comment tu as pu penser la musique? Est-ce que ça a été fait en amont? J'imagine que oui, vu que c'est la deuxième collaboration, enfin, troisième, du coup, collaboration avec Erwan Leduc.
Ouais, avec Erwan, c'est vraiment hyper, hyper intéressant comment ça s'est passé. Moi, je suis vraiment ravie de cette collaboration-là parce que ce mec, il me fait aller toujours à des endroits où je me sens hyper en danger. Et en même temps, j'apprends plein de trucs. Et donc, c'était notre troisième collaboration, après Perdri et Sous Contrôle. Et lui-même, il soupçonnait qu'il y aurait plus de musique que d'habitude dans ce film, mais pas à ce point-là. C'est vrai que là, il y a même des gens qui ont dit que c'était une comédie musicale muette, quoi. Enfin, une comédie musicale sans chanson. Et en fait, ce passage dont tu parles au début du film, c'était comme un prologue, en fait. L'idée, c'est de raconter les 18 premières années de la vie du personnage de Rosa en 8 minutes. Et en fait, il a essayé des trucs au montage avec sa monteuse, Julie Dupré, et tous les deux, ils se sont dit, bah, en fait, il faut une musique. Il faut une musique qui emporte tout ça. Et là, ils m'ont envoyé... alors, pour ne pas m'inhiber, ils m'ont envoyé deux références. Il y avait du Ravel et du Debussy. Et non, c'était quoi? Vivaldi, enfin bon, des trucs monumentaux, évidemment. Je fais, OK. Et là, il se trouve, et ça, c'est des trucs qu'il ne faut normalement pas raconter, mais il se trouve que j'avais des morceaux dans mon placard d'un film pour lequel je m'étais fait virer. Parce que ça arrive. Voilà. Et en fait, j'ai pris ces deux morceaux et j'en ai fait une espèce de suite dans un esprit d'ouverture, comme une symphonie. Quoi.
Ouais, le morceau a ces airs-là, en tout cas, de richesse, de morceaux, enfin, richesse d'ouverture où on va déployer presque toute la musique du film en l'espace de quelques minutes. Quoi.
Donc, c'est vraiment un des premiers trucs qui est arrivé sur ce film, même si avant ça, en vérité, il y avait un ancien morceau de Perdri issu de mes placards exactement. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui sortent de mes placards. En fait, j'ai placards remplis de trucs. Maintenant, je dis placard. Avant, je disais poubelle. En fait, y a plein de morceaux qui restent sur le côté quand on fait un film et qui peuvent resservir dans un autre contexte. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils n'allaient pas dans ce film-là. Et donc, il y avait un morceau de Perdri, que j'avais fait pour Perdri et qu'Erwan a réécouté avant de tourner La fille de son père en se disant « Ah, cette sonorité-là, elle m'intéresse, ça pourrait être la musique du début. » Et en fait, ça n'a pas été du tout la musique du début de La fille de son père, mais en tout cas, j'en ai gardé l'instrumentation. Donc, il y avait ce quatuor à cordes, il y avait du clavecin et du piano. Et voilà. Et donc, c'est ça qui a permis de réarranger ces deux morceaux qui venaient d'un autre film dont je tairai le nom. Et en fait, j'ai pondu ce truc hyper long de... Ouais, à l'époque, ça faisait peut-être 6 minutes.
Oui, c'est ça,
et ça n'a quasiment pas bougé. Et par contre, sur la fin de la séquence, là, on a eu 12 000 essais et erreurs parce qu'on ne savait plus comment sortir de cette musique. C'était hyper compliqué de commencer aussi fort. Sortir, ouais.
Et en fait, et après, au-delà de ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même des couleurs et des styles musicaux que tu essaies d'incarner selon les films et selon les tonalités que tu veux donner à des films. Il y avait un exemple là, cette année qui m'a beaucoup interloqué là-dessus, c'était Bis Repetita, où il y a une couleur très jazz là, dans celui-là, et qui n'existe pas forcément dans d'autres. Et par exemple, un autre film comme Les Syndromes des Amours Passés, totalement quelque chose de beaucoup plus... classique, dirons-nous, mais en tout cas qui s'inspire des musiques baroques qu'il y a dans le film. Donc,
ouais.
Est-ce que ça rejoint ce que tu disais par rapport aux textures et justement en termes de couleurs musicales, c'est quelque chose qui te...
Bah, c'est ça, je pense qu'au début, en fait, il s'agit de définir une couleur qui va être propre au film. Donc, quand je dis que je vais faire du jazz, alors qu'en fait, je ne sais pas faire du jazz. Hein, donc, je prends ce que j'en ai absorbé, ce que j'en comprends et ce que j'ai envie d'en garder. Et donc, du coup, je me dis, il y aura toujours un truc de moi. Donc, ce ne sera pas du jazz pur et dur, mais il y aura cette couleur qu'on a déterminée ensemble et qui semble fonctionner. Quoi. Ouais. Effectivement, sur le syndrome des amours passés, c'est un peu le même phénomène. Sauf que non, sur Bis Repetita, c'est moi qui arrive en disant j'ai l'intuition que ça pourrait être cool.
Oui, d'accord.
Parce que bon, on parle de jeunes qui sont dans un lycée. Alors on pourrait très vite mettre du hip-hop, faire des clichés sur la jeunesse. Et en fait, l'idée c'était de partir ailleurs.
Ouais.
Donc ne faire ni les clichés sur la jeunesse, ni les clichés sur l'Italie, même si j'en ai fait un peu quand même.
Oui, mais c'est marrant.
Et avec le syndrome des amours passés. Là, c'était un de ces cas où les réalisateurs, ils avaient déjà des choses en tête avant.
D'accord.
Et alors, ces réalisateurs-là, en plus, c'est vraiment génial. Ils ont une façon de faire qui est unique. Mm-hmm. Ils filment les répétitions avec les comédiens et les comédiennes.
D'accord.
Ouais. Ils les montent. Donc, ils filment avec un téléphone et ils font un film brouillon
qui
dure deux heures. Voilà, un film qui existe, qui est monté avec des musiques. Et en fait, ce film-là, je l'ai vu.
D'accord.
Et après, ils retournent un film, mais qui, voilà, il n'y a pas de scénario écrit comme on fait d'habitude. Il y a ce truc-là qui est le document de travail à partir duquel tout le monde travaille. Et donc, sur ce film-là, ils avaient mis Polo and Pan.
Ah oui, effectivement. Donc,
et Rameau, Les Indes Galantes. Et donc, moi, ils m'avaient choisi pour faire le grand écart entre les deux.
Là, par exemple, on parlait là dans tes actualités de la série Zorro, qui avait l'air aussi très particulière, parce que du coup, au-delà de juste... c'est la première fois que je crois que tu n'utilises pas de musique électronique au sein d'une œuvre, et puisque ça, c'est très, très référencé par rapport à tout un imaginaire qu'on a déjà potentiellement sur ça. Donc à ce moment-là, est-ce que tu peux peut-être nous en parler comment tu as pu aborder le travail sur cette série-là?
Oui, alors en préambule, j'aimerais dire un truc, c'est que si on fait de la musique électronique, parfois c'est pas parce qu'on a envie de faire de la musique électronique, c'est parce que ça coûte moins cher.
Oui,
non, mais c'est un truc qu'il faut dire, c'est qu'en fait, on a un budget limité. Mmh. Et en général, les producteurs et les productrices n'ont pas grande considération pour la musique. Donc, on a un peu ce qui reste. Et assez souvent, c'est ça qui décide du type de musique qu'on va faire. Donc, ça coûte évidemment moins cher que je sois chez moi sur mes petites machines et sur mes petits plugins que d'aller en studio enregistrer des musiciens. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant de musiques de films qui sont plein de synthés, plus un ou deux solistes, histoire de donner quand même un petit peu d'âme à tout ça.
Un peu de couleur, ouais.
Voilà. Donc là, moi, je suis embarquée sur Zorro, qui est quand même hyper improbable dans ma filmographie.
Oui,
et en fait, ça se passe en 1820. Je ne peux pas utiliser un synthé. Il y a un truc qui serait vraiment une... Enfin, ou alors, ce serait une autre série. Mais en fait, le projet, c'était pas celui-là. Le projet, c'était, on prend notre histoire au sérieux. On est en 1820, avec nos protagonistes, on y croit, même s'ils sont un peu débiles, on les aime et on est avec eux dans l'action. Et donc, avec ça viennent quelques contraintes qui sont imposées par le showrunner, enfin qui sont discutées, mais qui me semblent logiques. Il avait une envie de flamenco.
D'accord.
Alors, je n'y connais rien de rien en flamenco. Et en 1820, le flamenco, en vrai, n'existait pas. Donc,
oui,
on, là, on triche un peu.
Pareil, voilà, de parti pris pour la série.
Voilà. Après, ça me semblait assez naturel de mettre des éléments de musique mexicaine aussi, puisqu'en fait, l'histoire se passe en Californie,
oui, voilà,
qui était à l'époque sous la domination espagnole, mais le peuple est en fait mexicain. Et puis du coup, cette dualité-là entre musique espagnole et musique mexicaine vient raconter la dualité entre bah, le peuple mexicain et Don Diego, qui est lui un aristocrate espagnol et qui en même temps met la cape de Zorro et devient le héros du peuple. Enfin, il y a ce truc complètement schizophrénique. Donc voilà, ça c'est un peu les données de départ. Et après, bah, moi je fais ma sauce, notamment parce que je n'y connais rien en flamenco, parce que je n'y connais rien en musique espagnole. Et après... Bah, je crois que l'idée, c'est que je me repose sur des clichés, pas mal de clichés. Et ça tombe bien, c'est de la comédie, donc on a droit d'utiliser des clichés. Mais franchement, s'il y avait des gens, des personnalités académiques du monde de la musique classique espagnole qui écoutaient ma musique, je préférais ne pas être dans la pièce, quoi.
Et puis, au-delà de ça, il y avait aussi moi, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un générique. Et là-dessus, un générique qui reprend beaucoup de tropes aussi propres à la série des années 90.
Ouais.
Sur lequel j'ai l'impression que tu t'amuses beaucoup
et
énormément.
Des années 50.
Alors moi,
non,
j'ai souvenir. Mais alors après, c'est
tu
peut-être
penses,
parce que...
Parce que le Zorro, mais toi, t'es trop jeune.
C'est peut-être ça, en fait. Hein,
quand j'étais petite, s'il y avait Zorro en noir et blanc qui passait à la télé...
Ah oui, alors non, moi, je parle de... Enfin, du coup, moi, j'ai celui des années 90 en couleur, mais effectivement, il y a peut-être deux...
Il y a deux
versions.
Ouais. Tu vois, je l'ai raté, celui-là.
En tout cas...
Oui, ça s'inscrit dans une espèce de classicisme de la série. Il y avait une volonté, depuis le début, de Benjamin Charby, le showrunner, d'avoir un générique chanté. Et moi, j'avais envie que ça ressemble à un chant révolutionnaire. Alors, j'ai mis un petit peu ce truc de cœur de femme.
Ouais.
Donc voilà, ça fait cette espèce de mix. Je réutilise même des codes de la série Disney, donc celle des années 50,
ouais,
le fait d'utiliser des accords majeurs, mineurs un peu mélangés. Et ça, c'est vraiment le truc...
Voilà,
je le fais différemment, mais je reprends quand même ce truc qui était très efficace. Et après, j'ai eu de la chance parce que cette chanson-là, je l'ai écrite et du premier coup, elle a été validée, ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie.
Entendez-vous au loin le galop d'un étalon à toute vitesse, le beau, le grain, le sweat de Zorro qui vient sauver Los Angeles. La lune est sa seule complice quand il se faufile avec adresse. Un bandit attaque, il l'esquive sans rêve froid, c'est sa veste. Qui est Zorro? Zorro, derrière le masque, un homme, un dieu,
Et là, c'est une question un peu plus générale. Tu sous-entendais que du coup, toi, t'arrivais généralement au moment de la post-production pour les films. Et, mais justement, est-ce que c'est quelque chose... est-ce que t'as déjà eu des, plutôt... enfin, un travail musical qui s'est fait avant, les, avant, le, avant, le, avant le tournage, ou est-ce qu'on est venu te voir, en tout cas, dans d'autres circonstances
Ben, en fait, tous les réalisateurs et réalisatrices qui reviennent me voir, avec qui on a déjà travaillé, ils me consultent très tôt. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Donc, ça arrive très souvent que je fasse des musiques avant le tournage. Il y a certaines musiques qui servent pendant le tournage. Sinon, souvent, ce qu'on fait comme recherche musicale avant tournage, ça finit à la poubelle. Comme je disais tout à l'heure, ça ressort plus tard. Mais parce qu'on fait toujours une idée du film qui ne sera pas vraiment celle qui existera dans les images. Mmh. Mais en tout cas, ça sert à créer la relation, à créer le dialogue, à savoir à quel mot on va utiliser pour se parler. Et donc, ouais, je suis beaucoup là en amont. Pour Zorro, mais pour les séries en général, en fait, la post-prod est tellement rapide que je suis obligée de composer avant le début du montage. Mmh. Je suis obligée de composer avant de voir des images, sinon j'aurais pas le temps de faire un truc bien.
D'accord.
Donc je fabrique une espèce de catalogue musical. Mmh. Alors, en général, c'est assez basique. C'est... Je les nomme pas comme ça, mais il y aura le thème d'émotion, il y aura le thème d'action, le thème de mystère, etc. Et c'est les monteurs et les monteuses qui vont être vachement partie prenante dans les places de musique, dans le choix des musiques, qui vont choisir ça. Après, si je suis pas d'accord, on va en rediscuter. Mais ils font 95% du boulot de choisir les musiques.
Là, on va peut-être, en revenant un peu plus autour des films, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'obsession en termes de texture autour des instruments avant et à cordes. Et en fait, plus que ça, c'est jamais vérifié. Tu choisis toujours, j'ai l'impression, de choisir des instruments solistes, essayer de les faire jouer dans une sorte de richesse vis-à-vis de leurs instruments. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler Est-ce que ça vient de quelque chose, ou est-ce que c'est, comme tu dis, potentiellement une contrainte économique liée à la musique, liée à la production?
Alors, je ne sais pas si c'est le syndrome de Stockholm, mais j'ai l'impression que cette contrainte-là, je me la suis pas mal appropriée. Ça me plaît, en fait, de bosser avec juste quelques solistes. Après, j'essaye d'éviter les clichés de musique de film. Bon, après, on a les clichés qu'on peut, le piano, par exemple, j'ai beaucoup de mal à utiliser le piano. Je trouve ça tout de suite très connoté, mélo, très film français. Voilà. Donc, je suis pas hyper fan de ça, et j'aime bien, du coup, essayer d'utiliser les instruments, mais un peu à contre-emploi. Par exemple, les flûtes, je vais en utiliser plusieurs et elles vont jouer des accords, ce qui est pas du tout, enfin, ce qui fait, ça en fait des instruments harmoniques plutôt que mélodiques. Et après, franchement, je choisis les instruments pour leur sonorité, mais aussi, par exemple, la harpe. Je l'ai beaucoup utilisée parce que j'adore travailler avec cette harpiste, Chloé Ducret. Et donc, je suis ravie de la rappeler. Pareil pour la flûte. J'avais trouvé une flûtiste hyper chouette avec qui on se comprenait bien. Et donc, c'est aussi le plaisir de travailler avec les musiciens, les musiciennes en studio.
Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un samedi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
en fait, ce moment de studio, moi, je fais enregistrer les musiciens vraiment un par un. Ça arrive très rarement que j'en mette plusieurs. Parce qu'il y a ce truc où je les dirige un peu comme des acteurs, en fait. Mmh. Et où on se parle, parle de plein de trucs qui ne sont pas musicaux. Enfin, notamment, je parlais de cette harpiste. Mmh. Ça m'est arrivé de lui dire, là, je voudrais que tu joues comme un petit lapin qui saute. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se moqueraient de moi à ce moment-là. Et elle, pas du tout. Elle fait, ah, ok, quoi. Je vois. Et je prends le temps de leur montrer aussi les images, la séquence pour laquelle la musique est faite. Et pourquoi il faut qu'ils ou elles mettent telle intention dans tel accord. Mmh. Et ça, c'est un boulot que j'adore et que je peux pas faire avec plein de musiciens.
Il n'y a pas la même émotion, en tout cas, générée quoi, sur la création sonore et musicale.
Ouais, puis du coup, encore une fois, la recherche de la texture. Mmh. Parce que cet accord qui va jouer comme ça, ça ne marcherait pas si tout le monde avait... si je devais raconter une petite histoire à chacun et que ça marche exactement au même moment pour tout le monde. Mmh. Mais après, ça a été une expérience intéressante, par exemple sur Zorro, de travailler avec un ensemble de cordes.
Ouais.
Alors, je ne sais pas si tu sais comment ça se passe quand on n'enregistre pas en France.
Peut-être pas du coup, non. Mais
ça se fait énormément en musique de film parce que, comment vous dire, ça coûte beaucoup moins cher dans les pays de l'Est. Et donc là, on a enregistré à Skopje avec 20 musiciens, ce qui n'est pas énorme en fait. En cordes, ça fait un petit effectif. Et là, il n'est pas question de donner des intentions et de parler de petits lapins qui sautent, en fait. C'est-à-dire que même quand on fait une prise et que le chef se tourne vers moi pour me demander quels sont mes retours, j'essaye d'expliquer un peu ce que je voudrais, de nuancer le truc, et lui traduit en plus fort ou moins fort pour les musiciens, en fait. Donc, voilà.
Il y a une perte d'information.
Il y a une perte d'information, et puis là, on n'en est plus à discuter de chaque note, quoi. D'accord, il y a un truc vraiment d'efficacité.
Sur cette recherche du coup des textures et des solides, j'ai l'impression que ça s'aboutit là, du coup, dans la dernière série que t'as faite avec Erwan Leduc, alors qui sort là du coup en septembre. On enregistre l'épisode milieu septembre, j'ai pas pu la voir, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très minimal qui se dégage de cette musique là. Est-ce que c'est le cas ou
Ah ouais, encore une fois, le budget, hein.
Oui, d'accord.
Okay, et en même temps, à partir de cette contrainte-là, il y a aussi une logique en rapport avec la série.
D'accord.
Qui est qu'il y avait une demande. En fait, ça devient un jeu entre Erwan Leduc et moi.
Oui,
c'est-à-dire que vraiment créer le cadre le plus contraignant possible pour qu'il en sorte quelque chose de nouveau. Et parce qu'avec Erwan, en fait, mon... je suis obligée de le surprendre à chaque fois. Et c'est, au bout du quatrième projet, ça, ça devient un peu compliqué. Et donc, la consigne qu'il m'a donnée au début, je ne vous dirai pas quel personnage, mais il m'a dit qu'il faudrait que ce soit la musique composée par tel personnage.
D'accord, ok.
Qui est, ah, qui est pas musicien dans l'histoire, mais voilà, il me dit, imagine que le week-end, il compose dans sa cave. Et donc, ce type-là n'a pas plein d'instruments, en fait. Je me suis dit, bah, il a un instrument, il fait tout avec. Et en fait, moi, je me suis imposé la contrainte d'utiliser mon synthétiseur, j'en ai qu'un, et de ne pas faire tout en une prise. Bon, de faire plusieurs couches, hein, mais tout en une prise à chaque fois, et puis de monter toutes ces prises-là. Et pas de métronome. Donc, la musique, du coup, est très, très flottante. Il y a un côté comme ça, très bricolé.
Alors que d'habitude, c'est très rythmé dans tes...
Ouais, souvent, je pars du rythme.
Ouais, puis il y a quelque chose de très saccadé tout le temps, presque répétitif dans certaines de tes musiques, quoi.
Ouais, complètement. Puis avec, je pense, une inspiration toujours électro qui fait que même quand je fais de la musique avec des vrais instruments, il y a ce truc ouais, répétitif de l'électro. Derrière. Mais là, je voulais vraiment faire ce que j'avais pas l'habitude de faire, justement. Pas de tempo, et puis bon, ce truc un peu qui accepte, voire même qui cherche les imperfections. Bon, après, il y a toute une histoire, en fait. Toute cette matière-là, elle était bien, mais ça n'a pas suffi. Et là, gros moment de tension entre Erwan et moi, où il se disait, mais est-ce qu'elle va réussir à me surprendre, en fait ? Parce que faire la musique d'un film, c'est bien, mais faire la musique d'une série qui est l'équivalent de deux films, et continuer à être surprenante et à apporter de la nouveauté à chaque épisode, ça devient compliqué. Ouais. Et donc, il y a eu un moment comme ça où il me disait... Je sais pas ce qu'il faut, mais il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Ok.
Cette pression.
Ouais, ouais, hyper dur. Et franchement, heureusement, à ce moment-là, qu'on se connaissait déjà bien et que je savais qu'au fond de lui, il avait quand même un peu confiance en moi. Ouais. Parce que c'est des moments comme ça où ça peut très vite partir en vrille. Et je pense que, enfin, ça, c'est un sujet que j'aime bien aborder parce que les compositeurs et compositrices en parlent. Pas beaucoup. On se fait assez souvent virer des projets, en fait.
D'accord, ouais.
Dans des situations comme ça, où tout le monde commence à se dire « elle n'a pas trouvé », assez vite, c'est la solution de facilité d'éjecter les gens.
De prendre quelqu'un d'autre, ouais.
C'est... Ouais, voilà. Sans faire confiance sur la capacité de rebondir des gens.
D'adaptation, ok.
Ouais. Et forcément, il y a un temps de recherche, il y a un temps où on peut se planter, on peut ne pas trouver tout de suite. Mais bref, tout ça pour dire que heureusement qu'il avait confiance en moi. Et là, je lui ai proposé des trucs hyper, quand même, improbables. Il y a un morceau où. Qu'est-ce que je lui ai envoyé ? Ah oui, j'ai pris un alto.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas du tout jouer de l'alto. Donc, ouais, j'ai juste essayé de sortir des sons de l'alto. Puis ça fait des trucs hyper bizarres, un peu faux. Enfin, voilà. J'ai...
Presque bruitiste.
Voilà. J'ai édité tout ça. Et ça lui a vachement plu. Et j'ai aussi fait un morceau avec du clavecin. Et moi qui chante. Et le chant, je l'ai enregistré en une fois aussi. Donc, c'est un peu faux. Puis ça part en suraigu hyper désagréable. Je me suis dit, bon, bah, je tente ce truc. Au moins, ça ne va pas le laisser indifférent. Bon, et il m'a dit, waouh, c'est audacieux ton truc. Je ne sais pas si on va le garder. Et puis deux jours après, il me rappelle, il a fait, ouais, on a trouvé où le mettre. Ça marche super. Okay. Voilà, donc en fait, c'est hyper flippant, mais en même temps, c'est génial de se dire qu'il y a des gens avec qui on peut faire des trucs comme ça. Très, très bizarre.
Thank you.
Alors, peut-être deux petites dernières questions. Est-ce que toi, tu as eu un... Enfin, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le cinéma ? Est-ce que tu as eu un déclic de cinéma vis-à-vis peut-être d'un film ou d'une musique en particulier ?
J'ai pas de déclic d'enfance, mais je sais que voir Under the Skin avec la musique de Mika Levy, c'est un truc qui m'a hyper marqué parce que là, je me suis dit, waouh, là, on n'est pas du tout dans une musique qui accompagne, qui nous berce, qui nous brosse dans le sens du poil. On est vraiment... ça nous amène ailleurs, ça crée un univers, puis, c'est un truc de dingue.
Chacune de ces compositions, oui, c'est quelque chose.
Hein, ouais, encore le dernier film de Jonathan Glazer, c'était ouf.
Ah, oui,
donc voilà, ça c'était une énorme claque et j'avoue que j'y pense très souvent en fait, à ce truc de... Et il y a quelque chose dans, je ne sais plus quel est le titre du morceau, mais un truc qu'on entend pendant, j'ai l'impression, pendant des heures dans le film. Il y a toujours un silence un petit peu trop long entre deux percus. Je pense que le silence, enfin, je n'ai pas étudié le truc, mais le silence n'est jamais exactement le même. Ce qui fait qu'on est hyper mal à l'aise en permanence. Et ça, mais c'est génial quoi, de voir.
En termes d'ambiance, quoi. Voilà,
ça, ouais, mais ça, comment la musique, ça a pas de rapport avec les notes qu'elle joue. C'est vraiment l'effet physique que ça procure, quoi. Moi, c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller.
Et après, du coup, hors musique de film, est-ce que tu as des compositeurs, compositrices préférés qui sont en fait, pas forcément là comme des références, mais qui sont un peu des personnes qui flottent en général comme des inspirations Peut-être
ouais,
un peu cité Ravel, Debussy là au cours de l'émission, mais je sais pas.
C'est pas spécialement des influences. Après, je vais même pas réussir à te trouver des vraies influences. Mais moi, ce que j'écoute beaucoup, c'est de la pop en fait.
D'accord, oui, voilà.
Et les gens que j'admire le plus, c'est par exemple Rebecca Warrior. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est dément. Et surtout le fait qu'il y ait autant de cordes à son arc et de qu'elle puisse s'exprimer dans plein de styles et qu'on la reconnaisse toujours, ça je trouve ça génial. Aussi en musique électro, j'adore Charlotte Adigéry.
D'accord, oui, ok, je vois. Ouais, effectivement. Oui,
et Bolis Pupul, je sais pas si ça se prononce comme ça, enfin qui produit ses sons et qui fait des trucs de dingue. Donc voilà, j'écoute quand même énormément de musique électro, c'est ça qui me berce.
D'accord.
Et après, je ne saurais pas te citer des choses, mais j'écoute. Ouais, je me nourris de plein de choses.
Non, bah c'est très bien. Merci beaucoup, Julie Rouet.
Avec plaisir.
Et c'est sur la dernière bande originale de Rebecca Warrior pour le film Langue étrangère que nous concluons ce portrait musical. Vous pouvez retrouver en description toute la playlist de l'émission, et on se retrouve le mois prochain pour une émission actualité. Bonne soirée à toutes et à tous.